Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous avez pu profiter de cette température un peu plus clémente que celle des derniers jours. Donc nous sommes d'un nouveau réunis pour explorer ce thème qui est large, hein, Jésus 3.0. Savoir Jésus, que peut-on dire aujourd'hui, au début du troisième millénaire? Nous avons déjà franchi plusieurs étapes dans la quête du Jésus de l'histoire et en même temps du Jésus de notre foi. Quoi de neuf sur Jésus? C'était le premier sujet. Ensuite, nous sommes penchés sur les preuves et les témoignages au sujet de ce personnage qui interpelle, qui dérange. Hier soir, nous avons parlé de la résurrection et les indices et les preuves, pourrait-on dire presque, qui témoignent en faveur de cet événement marquant, cet événement qui a changé la face du monde, et ce n'est pas peu dire. Et ce soir, c'est le signe des chrétiens ou du christianisme par excellence qui va nous occuper, la croix. Pourquoi la croix a-t-elle encore quelque chose à nous dire ?
Ce soir, le thème, on pourrait penser que c'est, ouais, on sait tout. Mais en réalité, même si pour nous c'est clair, c'est toujours quelque chose que on a à approfondir toujours plus. Nous avons besoin d'y réfléchir. Mais pas pour seulement réfléchir parce que c'est quelque chose qui nous regarde. C'est parce que sur ce thème, dans le temps, il y a eu tellement de discussions. Et toujours, et aujourd'hui, il y a des gens qui croient que Jésus est mort et ressuscité, mais qui ne croient pas que c'est quelque chose qui est arrivé pour son salut. C'est étrange, mais c'est comme ça. Et il y a aussi d'autres nuances, quelque chose de très... Ça semble pas quelque chose de différent, mais c'est a de l'importance. Par exemple, est-ce que vous avez entendu parler que Jésus-Christ est mort parce que à travers sa mort, Dieu est devenu sensible envers nous? Il y a des gens qui croient que Jésus est mort parce que la colère de Dieu qui devrait être sur nous a été sur lui. Il y a des gens qui pensent à ça. Et il y a quelque chose de vrai, parce que lui, il est mort à cause de nos péchés. Et vous savez qu'est-ce que dit la Bible? Le salaire du péché, c'est la mort. Et il les a tous portés. Je voudrais que ce soir faire deux choses. Un panorama général, et après on va lire ensemble quelques textes bibliques. Sur tous les aspects que je suis en train de faire pour l'introduction, il y aurait des textes bibliques à lire. Mais je crois que ce sont des textes que plus ou moins tous, même ceux qui ne sont pas si approfondis dans la foi, savent. Derrière tout cela, il y a cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et le problème, c'est que on a pensé tout le temps dans l'histoire que c'est quelque chose que nous devons faire, que nous pouvons faire, c'est quelque chose qui nous concerne, une œuvre qu'on doit faire. Mais ce n'est pas ça. Alors, la première chose que je veux éclairer, c'est que soit le Père, soit le Fils, soit le Saint-Esprit sont concernés de la même manière pour notre salut. Quelqu'un a enseigné dans l'histoire que Jésus est venu pour nous sauver, parce que autrement le Père ne voulait pas nous sauver. Et il y a des historiens, des théologiens qui ont dit ça. Mais nous pouvons lire dans la Bible que Dieu nous aime, que le Fils nous aime et que le Saint-Esprit nous aime. Et que le salut vient grâce à son amour. Et il y a ce beau texte de Jonas, chapitre 2, verset 10, quand il était au fond de la mer, dedans ses poissons, il crie, et après sa prière, son cri, il exclame, le salut vient du Seigneur. Et il y a une chose importante à souligner, que nous sommes sauvés par l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais seulement grâce à Jésus, nous avons la possibilité d'avoir le salut. C'est Pierre qui le dit, il n'y a aucun nom, aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Cette croix est au centre de cette action qui seulement nous rend possible notre salut. La croix est le principal moyen que Dieu a choisi pour notre salut. Alors, une autre série de textes, de réflexions. Tout s'est rendu nécessaire à cause du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Vous avez la réponse. C'est simple. Je vais vous donner deux réponses, une de l'Ancien Testament et une du Nouveau. Dans l'Ancien Testament, il y a trois mots qui expliquent le péché. Vous les avez là. C'est la translittération des mots en hébreu. Le premier signifie « hata », être hors de l'objectif. Le deuxième, c'est être transgresseur de la loi. Et le troisième, c'est « avon », qui signifie être malade antérieurement, être corrompu. Un, c'est l'acte. Un, c'est être hors d'objectif. Et l'autre, avoir une nature qui est complètement malade. Et ça, c'est la condition, l'explication du péché dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose de semblable. Il y a amartia, il y a une erreur là, qui signifie, c'est le parallèle grec de l'hébreu ata, signifie être hors centre, décentré, hors objectif. Le deuxième, c'est amartema, que c'est un acte accompli, par lesquels nous sommes coupables. Et je vais vous faire un exemple. En grec, il y a un mot qui, on le traduit, « je t'aime ». Et c'est le mot « phileo ». Il y a un autre mot qui est « philema », qui est la même racine, qui signifie « je t'embrasse ». « Philema », c'est l'acte concret d'un aspect antérieur que j'exprime avec mes sentiments. Mais philema, c'est la réalisation pratique de mes sentiments. Et après, il y a amartano et amortolos qui signifie « je suis un pécheur ». Je suis pécheur, je suis né pécheur, je suis dans ma nature pécheur. Je ne peux pas ne pas pécher parce que je ne veux pas, mais ma nature, c'est être pécheur. Jésus est venu pour les trois aspects du péché. Ces trois mots en hébreu se trouvent les trois dans le chapitre 53 d'Isaïe. C'est le chapitre que vous connaissez tous, le serviteur souffrant, qui vient pour le péché, pour la transgression, pour l'iniquité. Et on les trouve, ces trois mots, ensemble dans d'autres aspects de la Bible, dans d'autres textes de la Bible. Par exemple, on les trouve dans les textes de Lévitique 16, où on parle des jours du jugement. Ces jours qui arrivaient en Israël une fois par année, ont célébré des actes pour les trois aspects du péché. Jésus est venu pour ôter les péchés. Jésus est venu pour quelque chose qu'il savait qui l'aurait amené à la mort. Maintenant, une série de tests de ce que nous avons à travers Jésus. Avec Jésus, grâce à Jésus, nous sommes pardonnés. Nous sommes réconciliés. Nous sommes justifiés. Jésus nous transforme, nous sanctifie. Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés de la condamnation de la loi. Tout cela grâce à la croix. Et vous comprenez bien comme une chose pareille, ce n'est pas facile à expliquer, à comprendre. J'ai essayé plusieurs fois de faire des exemples. Alors, pour les Italiens, j'ai fait un exemple qui est bien connu. Je ne sais pas s'il y a un semblable dans l'histoire française. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé en Italie. Et après, je vous raconte quelque chose qui n'est pas italien, c'est universel. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient une loi que pour chaque Allemand qui était tué, vous savez, il devait mourir 10 personnes. Vous savez ça. Quand les Allemands étaient en train de se retirer d'Italie, parce que les Américains étaient venus du Sud, et les Allemands et les alliés des Allemands italiens étaient en train de reculer vers le nord, tout près de Bologne, dans la région où je suis né, il y avait une armée allemande avec des tanks, avec beaucoup de soldats, avec des camions, était précédée par une moto qui avait les sidecars. Ces motos et allait sous une bombe et explosait, et les deux sont morts. Le général qui était derrière a tout de suite pris 20 personnes du village, des enfants, des femmes, des hommes âgés. Ils l'ont mis devant un mur. Avant, ils ont demandé aux hommes d'excaver une fosse commune. Il y avait les soldats déjà prêts pour... Il y avait 3 soldats pour chaque personne. Mais une question est venue dans la tête de ce général. Il a dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a mis la bombe, tous les autres seront sauvés, seulement lui va mourir. Et il y avait un jeune policier du village de 22 ans. Les jours après, c'était fiancé. Qu'il a dit, c'était moi. C'était pas vrai. Mais lui, il s'est mis à la place de tous les autres. Et il y a 2 années, il y a eu une rencontre dans le même village des personnes qui sont survécues grâce, s'appelle Salvo d'Acquisto, le jeune homme qui a donné sa vie. J'utilise parfois cette image pour expliquer la mort du Christ. Mais il y a une autre image plus c'est pas une image italienne. Vous savez que nous avons dans notre corps des défenses. Et nous sommes toujours sous l'agression d'ennemis de notre salut, des virus, des bactéries, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. De l'intérieur, nous avons des cellules qui change, nous avons quelque chose qui se passe à l'intérieur, pas toujours causé par l'extérieur. Quand un virus entre, nous avons dans notre corps les globules blancs, vous l'appelez comment, globules blancs ou cellules blanches, qui s'adressent vers ce virus, ils l'entourent et ils les tuent. Mais en tuant les cellules blanches meurent. Alors l'image qui vient, Jésus est le globule blanc de l'humanité. Il est là pour éliminer les péchés. ou si l'image de salvo d'acquisto ça va toucher, c'est salvo d'acquisto qui meurt à la place. Jésus, c'est celui qui meurt à ma place. Je vais maintenant, hier soir, je vous ai dit, prenez vos Bibles, qu'on étudie ensemble un texte biblique. Pour vous aider, j'ai mis le texte biblique sur l'écran. Le texte est de l'épître de l'apôtre Paul. Hier soir, je vous avais dit l'épître aux Romains. Mais vous avez lu. Bien. Maintenant, vous allez lire quelque chose d'autre. C'est bien que vous avez lu ça, mais nous allons lire dans un texte plus bref. Le texte aux Romains, c'est très long. Et voilà les textes. Le premier texte, c'est Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Est-ce que je peux demander à quelqu'un qui peut lire en français parfait? J'ai trouvé ce texte un des plus beaux qui nous décrit qui est le Christ. Je me rappelle une fois, j'ai fait une étude biblique avec ce texte à un prêtre catholique qui après est devenu adventiste, et il est resté comme ça. Il avait 3 doctorats aux universités de Rome. Il était en crise avec sa foi, et un jour il était en train de prier se promenant sur la rivière qui traverse Rome. Chaque grande ville a une rivière qui traverse, comme la Seine. À Rome il y a les Téveres, comment vous l'appelez en français? Mais c'est le fleuve de Rome, ça, peu importe le nom, Tiber. Et c'était un sabbat matin, il est en train de marcher comme les religieux marchent souvent, et il est passé devant notre église, et il y avait un cantique qu'on chantait dedans, et le cantique arrivait jusqu'à dehors. Il est rentré, il a vu des enfants faire quelque chose, il a été touché, il a commencé à étudier la Bible, et après 2 ans il a été baptisé, il est devenu un pasteur adventiste. J'ai eu la joie d'étudier la Bible avec lui. Après il venait avec moi quand j'allais donner des études bibliques, et il a vu la beauté d'expliquer la Bible. Il est allé étudier à Colonge pendant une année, et maintenant il est à la retraite. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14.
Que je vais lire dans la version Parole de vie. Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très-aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés. Nos péchés sont pardonnés.
Voilà, restez ici parce que ce n'est pas fini. Les plans viennent de Dieu. Remerciez Dieu le Père, que grâce à Jésus, il nous a arrachés du péché. C'est la divinité ensemble qui est engagée pour notre salut. Nous n'avons rien à craindre. Je vais me concentrer plus sur les versets suivants. Nous allons lire maintenant du verset 15 au verset 17.
Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui.
C'est pas fini encore, hein? Quelle intéressante introduction. Il va parler de la croix, mais il commence en indiquant qui est le Christ. Le Christ, c'est le Créateur. Toute chose existe grâce à lui. Celui qui un jour est monté sur la croix, c'est celui qui nous a créés. Mais pas seulement ça, il y a quelque chose en plus. Il est celui qui nous a créés, et ici c'est écrit, toutes les choses sont, subsistent en lui. C'est lui qui donne la vie. Il n'a pas seulement mis en action la vie, il n'a pas seulement détonné la vie, il n'a pas seulement commencé la vie, il la supporte, il la soutient continuellement. Nous vivons grâce à lui. Et ça, c'est très important de le comprendre par rapport à ce qu'on a mentionné hier soir. J'étais il y a un bon nombre d'années à Londres avec ma femme, et le dimanche, on a fait un tour dans la ville de Londres. Et on est entré dans... À Londres, il y a une des plus grandes cathédrales mormones d'Europe. On est entré, il y avait un hall plus ou moins comme cette salle, et on était en train d'aller main à la main dedans la salle. Mais comme on était là tout près, ils nous ont fermés. Vous êtes mormon? Non. Alors vous ne pouvez pas entrer. Parce que dans les sanctuaires, dans les tabernacles, seulement les mormons entrent. C'était un tabernacle, c'était les tabernacles. Et ils nous ont mis dans une petite salle. Et dans cette petite salle, ils nous ont fait voir une vidéo qui présentait leur... comme ils entendaient la vie. Et les vidéos montraient quelqu'un qui descendait du ciel, et après c'est expliqué que c'était l'âme, qui allait dans le sang de la mer, jusqu'au temps qu'il allait naître, et après il y avait une nouvelle personne. Après cela, la personne grandissait, les parents grandissaient, le temps continue pour tous, augmente pour tous, jusqu'au moment que les parents meurent. Et lui, il continue. Et après, l'image va du ciel où il y a les parents qui sont là, dans le ciel, et le fils qui est sur la terre. Le temps passe, les filles vieillissent, et ils tombent malades, et quand ils meurent, les parents sont très contents de voir le fils mort parce que maintenant l'âme retourne. Et après, on voit venir parmi les nuages l'âme qui monte. Et quand on a fini, nous sommes sortis, et le diacre, quelqu'un qui était là, c'était intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez? Et moi, j'ai répondu avec mon anglais qui était beaucoup plus pauvre que maintenant. Je ne crois pas que ma vie est dans mon âme. Je crois que ma vie est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui supporte, qui nous donne, qui maintient notre vie. Lui, il est le créateur, il est l'initiateur, et il est celui qui nous donne le souffle, la respiration et l'être, dira Paul à l'Areopage d'Athènes. Jésus-Christ est le créateur. Autre cadre sur Jésus-Christ, du verset 19 au verset 23.
Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi.
Quel bon français. Ça, c'est le troisième aspect que ce texte nous dit. Le premier, Dieu est l'auteur de notre salut, grâce à son Fils. Le deuxième, le Fils est le Créateur. Nous vivons grâce à lui. Troisième, c'est lui qui nous sauve par son sang. C'est lui qui est dans la croix, c'est lui qui nous sauve. À travers son sacrifice, nous sommes pardonnés de nos péchés. Vous remarquez qu'ici, il y a un mot particulier. dit le dernier verset, « Du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. » C'est quelque chose que nous acceptons comme un don. Nous y croyons. Dieu prononce un mot de cette croix qui est le mot de notre salut et nous donnons confiance. La mort de Christ sur la croix, ce n'est pas quelque chose que nous avons besoin d'éprouver d'une façon émotionnelle. Il faut y croire. Il faut donner confiance à sa parole. Est-ce qu'il y a un mérite dans la confiance? On accepte. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons le salut parce que nous croyons. C'est un don que nous acceptons. Et la dynamique de cette acceptation, c'est la foi. Et voilà, maintenant, pensez à l'histoire que vous ai racontée d'Italie. Sur la croix, il est mort en prenant notre place. Parce que les péchés que nous avons commis, c'est lui qui l'a pris charge à notre place. Il y a un texte dans les psaumes qui dit « Aux cieux, contemplez ». C'est là qui se joue notre pardon. Je ne sais pas si vous avez rencontré des personnes parfois qui vous rencontrent et disent « Est-ce que tu es sauvé ?» Vous avez rencontré des personnes qui vous demandent cela? Alors, quand la question est posée dans cette façon si directe, on a des difficultés à répondre. Si tu dis oui, qui pense d'être que tu as sauvé? Si tu dis non, c'est manque de confiance. J'ai vécu pendant 11 ans en Sicile, il y a beaucoup de pentecôtistes. Quand je la rencontre, il te demande cette chose-là. Alors, j'ai appris à répondre. Je crois que Jésus me sauve. Je crois que Jésus, il a fait tout pour mon salut. Je crois que Jésus m'aime et le Père, à travers Jésus m'aime et le Père m'aime aussi. Et sur la croix, il a fait ce que j'avais besoin pour mon salut. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Ça, c'est notre salut. Alors, le titre de cette conférence, c'est « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?» C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est toujours cela. Je vis parce que le Seigneur me donne la vie. Je marche, je reste debout parce que lui, il m'a donné le pardon. Le dernier mot que Jésus a prononcé avant d'être pris par les soldats, il a célébré la Sainte Cène. Et quand il a pris le pain et il a donné le vin, ceci, c'est mon sang qu'il est donné pour le pardon de vos péchés. Ô cieux, tais-toi et observe. Sur la croix, il y a quelque chose qui te concerne directement. Mais le cadre ne finit pas là. Et voilà peut-être quelque chose qui va à s'ajouter, que nous avons besoin de réfléchir, de penser encore plus profondément. Les versets que nous allons lire maintenant nous donnent cette claire intention d'aller plus au fond. On peut dire que presque toutes les confessions religieuses ont cette idée au semblable sur la croix. C'est quelque chose d'universel. Même si les gens ne savent pas dans les détails, et même s'il y a des enseignements parfois qui sont pas bien mis, qui sont pas bien expliqués, qui présentent la chose d'une façon erronée, mais la croix est là. Et cette croix, c'est quelque chose que les gens savent qui a été fait, que quelque chose a été fait là pour eux, même s'il n'est pas dans la clarté. Mais ce que nous allons lire maintenant, c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Et c'est quelque chose peut-être que nous avons besoin de réfléchir un peu plus. C'est du verset 24 au verset 28.
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ.
Est-ce que c'est clair ce texte? C'est pas facile. Mais il y a quelque chose ici pour lequel Paul nous indique la nécessité d'y aller au fond, de réfléchir. Et il dit quelque chose au commencement, et après nous lirons le verset 29 qu'il conclut cela. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Il y a ici quelque chose qui... c'est pas facile, hein? Paul donne soi-même pour être des supports, voilà, je ne sais pas si mon nom c'est le nom qu'il faut, aux souffrances du Christ. Je ne crois pas que les souffrances de Paul ajoutent quelque chose à notre salut. Et je ne crois pas que les souffrances de Paul donnent quelque chose en plus à notre connaissance personnelle du Christ. Mais nous aide à réfléchir que c'est quelque chose de très important. Absolument important. Qu'est-ce qu'il y a? Le Christ non seulement veut faire quelque chose pour nous, il veut faire quelque chose en nous. C'est écrit, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, espérance de gloire. Voilà quelque chose que nous avons besoin de renouveler continuellement. Parce que il y a des tests, et Paul dit quelque chose, ne êtes-vous pas convaincu que Christ demeure en vous? Avoir foi en Christ, c'est un aspect absolument nécessaire pour notre pardon. Avoir Christ en nous, c'est un autre aspect que nous avons de réaliser chaque jour. Ce n'est pas quelque chose qu'une fois fait, c'est fait pour toujours. La mort du Christ, une fois faite, c'est faite pour toujours. Ma foi en lui a besoin d'être développée chaque jour, mais cette expérience de communion intense qui permet à Christ de vivre en moi, c'est quelque chose pour lequel Paul met toutes ses forces. Il ne dit pas ça pour annoncer la mort du Christ, il le dit, cette expression forte, pour enseigner à nous la nécessité de vivre en Christ et de Christ en nous. Et le verset 29 explique encore d'une façon plus forte.
C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi.
Paul travaille pour cela. Paul travaille parce que Christ habite en nous. Alors maintenant ici, il y a quelque chose qui nous concerne à tous directement. Comme Paul s'exerçait, travaillait en combattant avec toute sa force, Et vous savez quel est le mot dans la langue originale ici qui est traduit combattant? C'est un mot qui peut-être, c'est aussi en français, je crois qu'il y a aussi en français l'expression translittérée. En grec, le mot c'est agonizo. Vous l'avez en français. Jésus était en agonie au Gethsémané. Jésus était pris d'une façon tellement forte que la sueur était des gouttes de sang. Jésus s'est donné tellement intensément qu'il était en agonie. Et Paul dit, moi j'agonise pour vous. Alors, quelle est la chose qui doit nous toucher fortement ici? Christ en nous, espérance de gloire. Christ en nous, avec cette force de la prédication, cette force de la parole. Christ en nous, et Paul dit, je participe afin que Christ soit en vous, doit être quelque chose que le Saint-Esprit nous enseigne à pratiquer les uns pour les autres. Comme le Christ était en Paul, et Paul le transmettait à ses frères, c'est pour nous une leçon d'expression de notre partage les uns les autres de la présence du Christ. Le problème qui surgit ici, c'est comment cette expérience si forte en Christ je peux la réaliser. Vous vous rappelez la rencontre nocturne de Jésus avec Nicodème? Vous l'avez? C'est clair. Nicodème, trois fois, pose la question. Comment c'est possible naître de nouveau, entrer de nouveau dans le sein de sa mère et naître? Première fois. Jésus dit, si vous n'êtes... Jésus ne dit pas à Nicodème, regarde, je ne veux pas dire ça. Jésus explique et il va plus au fond. Si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit. Et après Jésus continue. Et Nicodème, la troisième fois, mais comment peuvent venir ces choses? Et Jésus lui dit, tu es théologien et tu ne sais pas ces choses. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu enseignes? Et après Jésus raconte une parabole. Un fait qui est arrivé à l'histoire d'Israël. Comme Moïse éleva le serpent, c'est le serpent, au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Mais quelle est la leçon de cet épisode dans le désert? Si quelqu'un était piqué par le serpent, on dit piqué ou mordu, il fallait regarder. Alors je m'imagine, les gens étaient mordus ou piqués, les deux. Et Moïse dit, regardez là. Et moi, j'imagine les gens, mais qu'est-ce qui signifie regardez là? Il voulait savoir pourquoi, mais il n'y avait pas de réponse. Ou tu regardes, ou tu meurs. Et c'est la même chose avec le Christ. Et les versets suivants que nous allons lire nous donnent la dynamique de ce qui pour nous est l'expérience à revivre chaque jour. C'est le chapitre 2, la continuation du verset 1 au verset 3.
Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science.
Il y a deux leçons ici. Trois leçons. La première leçon, Paul dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Paul soutient ce combat pour l'église des Colosses, pour les Colossiens. Et c'est un combat pour un aspect spécifique. C'est expliqué au verset 2. Afin qu'ils aillent le cœur rempli de la consolation et qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Le deuxième aspect très important qui est ici, tout se joue dans la connaissance du Christ. Tout ce que je dois faire, c'est m'entraîner jour après jour à connaître le Christ mieux. Et ne pensez pas d'avoir plus rien à connaître, parce qu'ici il y a quelque chose d'immense. À savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Si quelqu'un pense d'avoir connu assez du Christ, il doit savoir qu'il n'a pas encore commencé à le connaître. Seulement un aspect, je vais vous dire, pour montrer quelle est la grandesse, la grandeur. Est-ce que vous savez combien d'étoiles il y a dans l'univers? Vous pouvez le lire, hein? En Internet il y a quelques idées. Alors, quelqu'un... J'étais au sud d'Italie pour une campagne d'évangélisation et je les faisais cette campagne d'évangélisation en tandem avec un scientiste. Il a posé cette question et il a dit, bien, si vous voulez avoir une idée combien il y a d'étoiles, non de planètes comme la Terre, non de satellites comme la Lune, d'étoiles comme le Soleil, il a dit ça, allez à la mer où il y a la plage. Avec vos mains, prenez toute la sable que vous pouvez prendre. Après, vous allez à la maison, pas ici parce qu'il y a... Et vous la mettez là, et vous commencez à compter. Quelqu'un m'a dit qu'il faut 2 jours pour compter les grains de sable qu'il y a dans une poignée. Mais combien de sable il y a dans le monde? Alors, vous avez en français un livre qui a été publié il y a 5-6 années. Le titre en anglais, c'est Beyond Imagination. Au-delà de l'imagination, je crois que c'est le titre en français. Si vous lisez ce livre, à moitié du livre, c'est écrit justement ça. Dans l'univers, il y a plus étoiles des grains de sable qu'il y a sur la Terre. Or, le scientiste qui faisait les conférences avec moi, il a dit quelque chose en plus, que maintenant nous le savons parce qu'il a été publié. Dans ton corps, dans notre corps, il y a plus de composants des grains de sable qu'il y a sur la Terre. Jusqu'il y a quelques quinzaines d'années, on savait que nous avions plus ou moins 130 000 milliards de cellules. C'est déjà un nombre immense, un nombre immense. Imaginez que dans chaque cellule, il y a les ADN, je crois qu'on dit en français. Hein? Si on aurait la possibilité, impossible, de prendre tous les ADN qu'on a dans nos cellules, les allonger, vont être plus ou moins comme c'est la largeur de mes mains. Et si on aurait la possibilité de les lier l'un à l'autre, les ADN que vous avez en vous feraient le cercle du système solaire. Or, après la découverte et la mappature du génome humain, vous avez entendu parler de cela. On sait maintenant que si on a 130 000 milliards de cellules, les composants de chaque cellule mis ensemble font un nombre plus grand des étoiles qui sont dans l'univers. C'est là ce qu'on dit aujourd'hui. Seulement que nous savons seulement les 6% de la grandeur de l'univers. Alors la question c'est, comment il est grand Jésus-Christ, le créateur de tout cela? Et voilà alors qu'il y a ici une phrase de l'apôtre Paul qui dit, en lui sont tous les trésors de l'intelligence, de la sagesse et de la science. Nous n'aurons jamais la possibilité de dire, je connais tout du Christ. Peut-être que nous connaissons pas mal la Bible, mais la Bible dit beaucoup du Christ, mais pas tout. Dans l'éternité, nous aurons la possibilité de connaître un Christ beaucoup plus fort. Alors, le secret pour vivre la présence de Christ en nous, c'est de commencer, de continuer et de grandir dans sa connaissance. Troisième aspect. Est-ce que vous êtes prêts pour le troisième aspect? Mettez les ceinturons. On dit la ceinturon ou la ceinture? La ceinture. Il y a une phrase ici. Je relis le verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. À la fin de la lettre, de cette lettre, Paul dit aux Colossiens, quand vous aurez terminé d'étudier cette lettre, envoyez-les aux frères de Laodicée. Et eux, ils vous enverront la lettre que moi j'écris à eux pour vous. Ça signifie que Laodicée et Colosse avaient des problèmes et des besoins semblables. Or, l'Église qui était à Laodicée à ce temps-là, peut-être a reçu la lettre de Paul. Et nous l'avons aussi. Mais nous n'avons pas la lettre de Paul à l'église de Laodicée. Mais il y a quelque chose qui nous concerne, qui nous regarde un petit peu de Laodicée. Vous ne pensez pas? Paul dit ici que le Christ habite en vous. Oui ou non? Espérance de gloire. Vous vous rappelez ce qui est écrit à la lettre à Laodicée dans l'Apocalypse? Où il est le Christ? Paul écrit que le Christ habite en vous. C'est juste? Où il est le Christ à Laodicée? Je n'ai pas du chocolat. Si j'avais du chocolat avec moi, je dirais, le premier qui répond, je lui donne du chocolat. Où il est le Christ à Laodicée? Il est dehors. Il est à la porte. Et qui? Alors, cette lettre de Paul aux Colossiens a une invitation par rapport au Christ qui nous concerne, qui nous regarde. Christ en vous, espérance de gloire, c'est le besoin de l'Église, c'était le besoin de l'Église de Colosse. Mais regarde, dans l'Apocalypse, c'est aussi les besoins de l'Église de Laodicée. Et s'il y a un temps pour lequel nous avons besoin de connaître mieux le Christ, je crois que c'est le temps de Laodicée. Et je crois que c'est le temps que, parallèle à Laodicée, vous le trouvez dans la lettre, non dans la lettre, dans la parabole des 10 vierges. Vous vous rappelez la parabole des 10 vierges? Bien sûr que vous vous rappelez. Quel était le problème des 5 vierges folles? On dit folles? Ou bêtes? Moi, je préfère bêtes. Vous savez pourquoi? Vous les comprenez maintenant, pourquoi, par que je pense. Quel était le problème des 5 folles?
Il n'y a pas d'huile.
Vous êtes d'accord? Pas assez d'huile. Vous êtes d'accord? Il y a quelques-uns entre vous qui pensent quelque chose de différent? Quel est le problème de la... C'est pas l'huile.
La foi.
C'est pas écrit. Quel est le problème des 5 vierges folles? Ne les lisez pas, hein? N'ouvrez pas la Bible maintenant. Il y a une phrase qui est liée à ce texte des Colossiens. Les 5 vierges vont chercher de l'huile. Oh, je ne sais pas où c'était, mais les mariages venaient de cette façon-là, plus ou moins. Il n'y avait pas d'huile. Ils vont chercher. C'était la nuit. Oh, il n'y avait pas la lumière comme aujourd'hui dans les villes à ce temps-là. Je pense qu'ils ont se sont trompés de route, ils ont tapé avec les murs parce que c'était sombre. Il n'y avait pas d'huile, même pas dans les lampes, il n'y avait pas de lumière dans les rues. À la fin, elle trouve de l'huile. Il retourne, il tape. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais vous n'avez pas de l'huile. Il ne dit pas comme ça. Je ne vous connais pas. Qui vous êtes? Je ne vous connais pas. Est-ce que vous avez vu quelquefois l'expérience d'une personne que vous connaissez et elle vous dit qu'elle ne vous connaît pas? Moi, je l'ai fait, cette expérience. Je suis parti un jour pour un congrès. J'étais avec des amis. Ils ont fait un jeu. Qui perdait le jeu devait que se couper la barbe. J'avais la barbe bien noire. Maintenant, c'est plus blanc, un peu plus blanche. Je suis rentré à la maison sans la barbe. Je n'avais pas la clé avec moi. Je tape à la porte. Ma petite fille, qui au mois de septembre va se marier, elle était de 2 ou 3 ans. Elle ouvre la porte. Elle tourne. Maman, il y a quelqu'un que je ne connais pas. Viens. Ce serait terrible un jour si je vous dirais, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Peut-être rien de nouveau sous la croix, mais beaucoup de choses à apprendre pour connaître à nouveau le Christ. Paul a écrit plusieurs fois les mots connaître. Pierre termine sa deuxième lettre. Mais croissez, je vais prendre la Bible, parce que si je n'ai pas de mémoire bien, c'est plus facile que je ne l'ai pas aussi en français. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, les versets 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Croissez dans la gloire, dans la grâce et dans la connaissance. Non seulement pour connaître le Christ personnellement, qui est la chose la plus importante, mais aussi pour croître dans la connaissance du ministère et du mystère de la croix. Là, nous sommes sauvés, mais nous avons besoin de comprendre toujours mieux. Que Dieu nous aide. Amen.